France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
C'est un chiffre qui donne le vertige. Le chiffre d'affaires du narcotrafic en France a triplé depuis 2010. On estime, tenez-vous bien, entre 3,5 milliards et 6 milliards par an. Alors est-ce qu'on joue à armes égales ? Est-ce qu'on joue à armes égales quand un jeune chauffeur, les petites mains du quartier qui surveille les points de deal, gagne plus en une soirée que s'il avait un travail ? Est-ce qu'on joue à armes égales quand avec des sommes pareilles, le narcotrafic est capable d'employer 240 000 personnes ? Est-ce qu'on joue à armes égales quand les trafiquants désormais apportent leurs marchandises via une appli comme on le ferait pour commander une pizza ? Est-ce qu'on joue à armes égales quand les crypto-monnaies rendent l'argent intraçable ? Les maires, et nous en avons une avec nous ce soir, se sentent vite démunis pour rassurer les habitants de leur ville, grande ou petite d'ailleurs, très urbanisée ou dans les zones rurales, aucun lieu n'est épargné. La police s'arrache aussi les cheveux. Aujourd'hui au Sénat, on discute d'une proposition de loi transpartisane qui essaye de renverser cette vapeur en s'attaquant au blanchiment, en gelant des avoirs, en créant un statut spécial de repenti. Le Sénat vient de voter pour la création d'un parquet national anti-criminalité organisée. Alors, taper au portefeuille, c'est sans doute une bonne idée. Les trafiquants n'ont pas peur de la prison, disons-le. Ils font leurs affaires depuis l'intérieur et ils savent qu'ils vont retrouver leur pactole en sortant. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on peut reprendre la main ? Est-ce qu'on peut casser les trafics et les filières ? Vous allez nous le dire, vous qui vivez dans des quartiers ou dans des zones qui sont touchées par les trafics, vous qui, comme tout le monde, savez repérer les points de deal de vos rues. On a commencé avec un chiffre, je vous en donne un autre. La France est toujours championne de consommation de cannabis en Europe. Le nombre de personnes ayant par ailleurs consommé de la cocaïne au moins une fois est passé de 450 000 à 1 100 000 entre 2017 et 2023. C'est le téléphone sonne, et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Patrice, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Patrice.
Eh bien, je voudrais faire référence à un film qui est passé dernièrement, un documentaire qui s'appelait Héroïne, la défaite de Verdun. Où on y voit que finalement, la Meuse est une plaque tournante de la drogue. On ne s'attendrait pas à ce genre d'informations. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu les départements ruraux par rapport à ce trafic ? Et puis, la question que je me pose aussi, puisque j'habite non pas à Verdun, mais dans le sud de la Meuse, c'est en termes d'effectifs, est-ce qu'il n'y a pas un décalage un petit peu étonnant entre le nombre d'effectifs, les gros effectifs qui sont déployés, par exemple, contre les écologistes dans le sud de la Meuse, par rapport à CIGEO, je ne vais pas commenter, et puis la lutte de la drogue, contre la drogue, qui est nécessaire, justement, sur Verdun.
C'est un peu étonnant. Merci beaucoup, Patrice, qui est un auditeur habituel et qui replace toujours à bon escient ces problématiques dans la Meuse. Merci à vous, en tout cas, parce que la question est pertinente, en tout cas, sur les lieux et sur les départements ruraux, pour discuter ensemble autour de la table. Il y a Frédéric Loz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale. Il y a Amandine Demort, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire d'Échirolles, c'est près de Grenoble. Il y a Michel Gandillon, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes expert associé au pôle sécurité défense du CNAM. Vous êtes co-auteur avec Gaëtan Gors et avec David Weinberger de Géopolitique du crime organisé aux éditions Erol. Merci à tous les trois d'être avec nous. Frédéric Loz, il a raison, notre auditeur Patrice, il n'y a pas que les villes, il y a aussi les zones rurales. Et en effet, on ne l'oublie pas. Est-ce que ça veut dire que les filières changent ? Est-ce que ça veut dire que la consommation change ? Est-ce que ça veut dire les deux, mon capitaine ?
Ça veut dire les deux, mon capitaine, tout simplement parce qu'il y a une explosion à la fois de l'offre et en même temps une explosion de la demande. Mmh. Donc effectivement, on a de plus en plus de petites villes et de zones rurales qui sont concernées. Alors dans l'Est, probablement cocaïne et cannabis, mais également l'héroïne, puisqu'on a des filières criminelles qui viennent d'Allemagne, des Pays-Bas, parfois turques. Je rappelle également que pour la drogue, puisqu'il a parlé de Verdun, la première fois qu'on a interdit, me semble, par une loi, la drogue en France, c'était en 1916, parce qu'on s'est aperçu que le non-droit et le libéralisme en la matière qui régnait étaient catastrophiques en termes de santé publique, et en particulier auprès des soldats. Après, oui, bien évidemment, on manque de moyens, parce qu'on est dans un combat asymétrique. On a également une mondialisation qui est très ultra et trop libérale, qui fait qu'on a une passoire dont profitent, en termes de frontières, dont profitent les réseaux criminels organisés. Et c'est aujourd'hui préoccupant. Vous avez rappelé les chiffres. Et puis les enjeux de sécurité, de souveraineté, mais également, on en parle peu, de santé publique.
Avant, alors on parlera de tout ça bien sûr au cours de ce téléphone sonne, avant de faire un tour de table, Frédéric Loz, vous avez, on évoquait effectivement les zones rurales, la question que je me posais moi, c'est si les deals avaient augmenté dans ces zones-là aussi, parce que c'est pas là qu'on les attend, en fait, et qu'effectivement, en termes d'effectifs, on se dit que c'est peut-être plus facile, pardon pour nos amis meusiens, mais de trafiquer dans la Meuse, et ensuite de faire écouler sa marchandise que de le faire en arrivant en région parisienne.
Non, il y a davantage de drogues qui circulent en milieu rural comme en milieu périurbain, mais l'essentiel de la circulation, de la consommation des lieux de production reste en milieu périurbain et notamment dans les grandes villes près des ports, tout simplement pour des raisons de facilité logistique autour du Havre, de Dunkerque, de Marseille, mais comme autour des ports de Rotterdam et d'Anvers. Donc la drogue circule et se diffuse davantage dans les milieux ruraux parce que les trafiquants s'adaptent face à la pression notamment de la police et des douanes. Et puis, évidemment, ils vont davantage en milieu rural, qui est plutôt un milieu qui est sous le contrôle de la gendarmerie, mais ça, pour autant, il y en a autant en ville.
Je voudrais, avant de vous donner la parole, Michel Gandillon, qu'on écoute une note vocale, on la découvre ensemble, c'est celle de Maël.
Alors moi, je suis DJ techno et j'ai constaté dans les 5 dernières années que la cocaïne qui était réservée au milieu de la fête et puis un petit peu à la mode, etc., s'est répandue dans toute la société. Maintenant, chez les trentenaires, les quarantenaires, il n'y a pas un anniversaire, même les anniversaires des enfants, où les parents, ou en tout cas certains parents, s'enferment dans les toilettes pour prendre de la cocaïne. Donc voilà, une grosse démocratisation des produits qui est vraiment inquiétante.
Est-ce que, Michel Gandillon, l'usage effectivement de la cocaïne a changé? Moi, j'étais scotché en préparant cette émission de voir passer le chiffre de 2017 à aujourd'hui, de 450 000 utilisateurs au moins une fois dans une année, à plus d'un million. Est-ce que l'usage a changé?
En tout cas, l'usage s'est massifié dans la société française. Hein. Les chiffres sont très clairs, hein, puisque entre 2000 et aujourd'hui, entre 2000 et 2023, les consommations de cocaïne dans la société française ont été multipliées par 9, avec une accélération ces dernières années, puisqu'entre 2017 et 2023, les augmentations de consommation de cocaïne ont dû augmenter de près de 70%, donc c'est absolument gigantesque. Dans le cadre d'une offre de cocaïne qui est pléthorique aujourd'hui, hein, puisque la cocaïne qu'on consomme en France est produite essentiellement en Colombie, et que la production de cocaïne en Colombie a été multipliée par 7.
Finissez, Monsieur Gandillon.
Et il y a un fait majeur en 2023, c'est qu'en France, on a dépassé les États-Unis en termes de consommation, puisque proportionnellement, on consomme maintenant beaucoup plus de cocaïne en France qu'aux États-Unis.
Est-ce qu'on sait dire ce qui s'est passé, en fait? Est-ce que c'est effectivement parce que l'offre est là, a inondé le marché, qu'on s'est retrouvé avec des consommateurs qui ont été multipliés par des chiffres astronomiques que vous nous citez? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une autre explication?
Alors, bon, il y a bien sûr le facteur de l'offre, donc l'explosion de la consommation, l'accessibilité aussi du produit, hein, puisque la baisse des prix sur une longue durée, hein, je me suis amusé à reconstituer les prix dans les années 90, le prix d'un gramme de cocaïne, c'était à peu près en euros constants 325 euros. Aujourd'hui, c'est 65 euros. Et le produit qui circule est beaucoup plus pur qu'il y a une dizaine d'années, hein, puisqu'il n'est pas rare de trouver maintenant des produits avec des teneurs à 70%, contre à peu près 50% il y a 10-15 ans. Donc des prix en baisse, une qualité du produit entre guillemets en forte augmentation, une accessibilité du produit qui s'est beaucoup développée, et notamment aussi avec les livraisons à domicile, hein, puisque il n'y a pas que les points de deal, il y a maintenant des structures de livraison qui vont directement vers le consommateur. Donc le produit s'est démocratisé. Et puis, il y a la question de pourquoi les gens consomment de la cocaïne aujourd'hui. Et je crois qu'on est dans une société de la performance, c'est-à-dire que la cocaïne est un stimulant. On vit des rythmes au travail, dans la vie quotidienne, beaucoup plus stressants qu'auparavant. Et donc, la cocaïne, une sorte de béquille pour beaucoup de gens. Alors, il y a des consommations récréatives, hein, bien évidemment, qui restent très importantes. Mais il y a aussi, comme c'est un produit stimulant, un produit qui nous permet d'affronter le quotidien, au travail, ou dans d'autres secteurs de la vie.
Amandine Demort, vous qui êtes maire des Chirolles, et quand on entend à la fois ce que dit Michel Gandillon, ce que disait Frédéric Loss juste avant, en parlant de guerre asymétrique, vous, j'allais dire, vous êtes toute seule dans votre mairie des Chirolles, comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous voyez? Et est-ce que vous vous sentez dans une guerre asymétrique et hélas, parfaitement inopérante?
Oui, pour moi, la guerre est asymétrique parce qu'on n'y met pas les moyens suffisants pour s'attaquer à la question du narcotrafic. Hein. Moi, c'est pour ça que je me bats, par exemple, pour qu'on ait des effectifs supplémentaires, pour qu'on redonne des moyens à la justice, pour qu'on nous remette aussi les moyens qu'on nous a coupés sur la prévention qu'on met sur les territoires. Mais oui, la guerre n'est pas gagnée.
Qu'est-ce que ça veut dire chez vous, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire chez vous, par exemple, cette augmentation-là? Donc, j'imagine, dans certains quartiers, donc l'ubérisation, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien?
Eh bien, c'est des points de deal qui se sont multipliés, notamment après la période Covid. Hein, on a vu fleurir une multitude de points de deal sur le territoire communal. Ça touche, et il faut le dire, essentiellement les quartiers populaires aujourd'hui. Et c'est bien toute la difficulté qu'il y a. C'est que le système est très bien organisé. Hein, il s'installe sur des territoires en fragilité parce que c'est plus facile, parce que la main d'œuvre aussi, ils arrivent à la trouver sur place, et c'est navrant parce que c'est la double peine pour ces habitants habitantes qui ont pour la plupart de grosses difficultés sociales et qui en plus subissent au quotidien un narcotrafic qui dans notre agglomération devient de plus en plus violent avec l'usage d'armes à feu.
Olivier est avec nous. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
On vous écoute, Olivier. Vous êtes un peu le porte-parole de beaucoup de nos auditeurs avec votre question. On vous écoute.
Eh ben, la question, c'est de savoir pourquoi on ne fait pas une action aussi auprès des consommateurs. Moi, j'habite Rennes avec des amis qui vivent dans ces quartiers dont la précédente personne a parlé et qui sont démunis de voir des CSP+, après avoir été déposer leurs enfants à l'école avec un vélo cargo et d'en venir chercher leur dose. Voilà, c'est ça. Mais et après, ils s'en vont. Et ils ne restent pas dans ces quartiers-là, ils n'habitent pas ces quartiers-là. Mais en attendant, ils entretiennent le trafic.
Et merci beaucoup pour cette intervention, Frédéric Loss. Ce qu'on a décidé de faire là, ce qui se passe au Sénat ce soir, c'est taper sur les trafics et surtout sur le portefeuille. Est-ce que vous diriez qu'il faudrait une action en Y, si je puis dire, et aller aussi vers le consommateur?
Oui, il faut une action vers le consommateur. Madame le maire des Chirolles a parlé de prévention. Bien sûr, il y a la prévention juvénile sur le terrain, mais également, moi je le dis depuis plusieurs mois, je suis stupéfait qu'on n'ait aucune campagne de prévention et de sensibilisation contre les méfaits de la drogue de la part du ministère de la Santé. Pour ma part, je ne suis pas naïf, je peux en parler, hein, et je le dis avec émotion, j'ai un frère qui s'est suicidé, qui fumait du haschich, hein, et je me pose des questions également sur ce qui s'est passé. Bon, et ça reste mon frère, avec toute l'affection, mais moi, je n'ai pas envie, par exemple, pour mes enfants, de leur dire, ben, ce que je vous propose, c'est de la cocaïne ou du cannabis. Donc, ce que je constate, c'est que de toute façon, vous avez des campagnes de prévention qui sont très bien faites sur la prévention du cancer, prévention du VIH, la lutte contre l'insécurité routière, et on n'a rien sur la drogue. Vous allez sur les réseaux sociaux, il y a un discours de banalisation, de désinhibition. Personne n'évoque les dangers pour la santé, les troubles respiratoires, psychotiques, le fait que pour des adolescents qui sont en pleine maturation, c'est extrêmement dangereux. En plus, pendant l'adolescence, on ne fait pas les choses à moitié. Lorsqu'on doit consommer, on ne consomme pas de façon modérée. C'est extrêmement dangereux. Moi, je suis frappé déjà qu'il n'y ait absolument rien là-dessus, qu'il n'y ait aucune campagne. Sur les consommateurs, la partie répression, il y a des amendes forfaitaires délictuelles qui ont été mises en place, puisque de toute façon, ça fait bien longtemps qu'on ne faisait plus de garde à vue, qu'il n'y avait plus de vraies poursuites, c'était des alternatives aux poursuites. Le problème, c'est le recouvrement, et c'est avoir un discours plus ferme et encore plus clair.
Après, Michel Gandillon, moi, l'interrogation que j'ai, c'est pour ce qui est de ce fameux consommateur occasionnel dont nous parlait Olivier, qui va chercher sa dose en vélo cargo, ma question c'était, est-ce que ce qu'il faut lui dire, c'est dangereux? Ou est-ce que ce qu'il faut lui dire, c'est voilà ce que ça représente dans les quartiers, voilà la dangerosité, voilà la violence, c'est par quel bout que ça peut avoir plus de sens, en fait, à votre avis?
Je crois que ce qui est compliqué aujourd'hui, quand on regarde les consommations de drogue dans la société française, c'est qu'elles sont très hétérogènes. C'est-à-dire que les motivations qui guident les consommateurs peuvent différer d'un consommateur à l'autre. Je crois qu'il faut peut-être distinguer deux grandes catégories de consommateurs. Les consommateurs qui sont addicts à une substance, c'est-à-dire qui ont perdu leur liberté de s'abstenir, et là qui relèvent de la prise en charge médicale, psychothérapeutique, psychologique, tout ce qu'on veut. Et puis les consommateurs récréatifs qui en prennent dans un cadre plus ou moins hédoniste. Et c'est peut-être aussi à ceux-là qui ont.
Mais j'allais vous dire, peut-être même surtout.
La liberté de s'abstenir, qu'il faudrait.
Exactement, c'était le sens de ma question. Est-ce que c'est pas surtout à ceux-là qu'il faut s'adresser, en mettant le doigt effectivement sur ce que ça veut dire, cette consommation récréative? Elle entraîne tout le reste, en fait, et l'énormité non seulement de ce qu'on dit là, mais Amandine Demore, vous nous parliez tout à l'heure de points de deal qui sont de plus en plus violents, etc. Et chez vous aussi, j'imagine que vous voyez ce type de consommation. Est-ce que vous vous dites qu'il faut aussi aller dans cette direction-là ?
Ah oui, de sensibiliser les consommateurs, oui, bien évidemment. Parce que ça touche toutes les catégories sociales, ça a été dit, hein, qui viennent consommer essentiellement dans les quartiers populaires. Mais il faut qu'on mène une vraie campagne sur les questions de santé publique et de santé mentale aussi. Hein. Moi, je pense qu'il faut le prendre sur tous les pans là-dessus, sur la question de la consommation.
Magali est avec nous, on est sur le même thème, et puis après on ira sur les mesures qui sont pour l'instant, si je puis dire, dans les tiroirs ou en tout cas au Sénat. Bonsoir Magali.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je vous donne mon témoignage. Je suis atterrée par le nombre de personnes autour de moi, de tous milieux socio-professionnels et de tous les quartiers et de plusieurs endroits en France, qui me parlent de jeunes entre 15 et 30 ans qui fument tous les jours du cannabis et qui n'arrivent plus à s'arrêter, très souvent en lien avec des dépressions. Or, c'est illégal, alors tout se cache. Je sais que les médecins peuvent les soigner, mais comme c'est une consommation illégale, elle est cachée par les parents qui s'occupent de ces jeunes, avec aussi de très forts risques pour ces jeunes de perdre leur permis, de se retrouver au tribunal condamné et de ne plus pouvoir exercer un certain nombre de métiers. Et quelle prévention fait la société ? Dans les collèges et les lycées, quelle prévention efficace ? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, et dans les entreprises aussi. On peut parler des vendeurs, mais est-ce qu'il serait possible d'agir intelligemment sans mise au ban de notre société des consommateurs qui sont des victimes et de les soigner officiellement, un peu comme ce qui se fait pour les alcooliques, par exemple. Je vous remercie de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie, Magali, et vous êtes la bienvenue dans le téléphone sonne. Frédéric Lauze, moi, je trouve ça intéressant, en fait, parce que nos auditeurs sont vraiment sur les deux tableaux aujourd'hui, en disant, on prendra tout à l'heure une qui habite à Bordeaux, qui veut nous raconter comment ça marche chez elle et ses points de deal. Et puis, on a toute une partie aussi qui sont là en train de dire, il ne peut pas y avoir de mesures uniquement contre les trafiquants. Il faut aussi regarder vers les consommateurs.
Non, là, je trouve que le témoignage de Magali est effectivement très complet, très, très pertinent. Alors effectivement, un jeune en plus risque de perdre son permis, mais on l'a vu dans l'affaire Palmade, mais il risque aussi de tuer quelqu'un. Hein, parce que lorsqu'on conduit sous cannabis, sous l'emprise du cannabis par exemple, ou de la cocaïne, on est aussi dangereux que lorsqu'on conduit sous l'emprise de l'alcool. Bien évidemment, c'est compliqué, ça témoigne tout ce qui a été dit du fait que dans les écoles, sur les réseaux sociaux, l'intérêt général commande que le ministère de la Santé, là c'est pas le ministère de l'Intérieur, avec le bâton pour taper, vienne expliquer les méfaits, les dangers. Parce que dès qu'on va vous parler de votre santé concrètement, avec des exemples extrêmement concrets, vous avez un certain nombre de personnes, de jeunes, je pense en particulier aux jeunes, qui vont certainement éviter. Et puis, il faut qu'on nous parle de projets alternatifs, je suis pas naïf, mais le sport, la culture, et puis expliquer les dangers en détail que cela représente. On a des tas d'études, on a des missions, on a des observatoires qui s'occupent de ça, on a des addictologues. Donc, c'est impératif qu'on les entende aujourd'hui. Il y a un discours de banalisation qui fait un peu peur. Moi, je pense pas simplement à celui qui est un adulte et qui fume un joint récréatif, c'est interdit, il faut le sanctionner. Je pense à tous ces jeunes, le mot a été prononcé, qui vont devenir addicts, parce que en plus, quand on est jeune, on ne fait pas les choses modérément. On est aussi, on a des tourments émotionnels, psychologiques qui font que c'est propre à l'adolescence. Et malheureusement, la drogue peut avoir des effets dévastateurs physiquement, physiologiquement et psychiquement, et malheureusement pour la suite. Donc c'est pour ça que oui, Magali a très bien dit, il faut agir surtout sur les consommateurs, sur les trafiquants. On dit qu'il, la maire des Chirolles disait les points de deal, je ne parle pas des points de deal numériques, l'ubérisation, sont souvent dans nos quartiers populaires. Mais là aussi, il y a des questions à se poser, à qui sont parfois les complices, parce qu'il y a des gens qui sont captifs et qui subissent le trafic de drogue. Et donc, c'est une double peine pour certains d'entre eux, ils sont défavorisés, ils subissent le trafic de drogue, mais il y en a aussi qui sont aussi complices.
Pour poursuivre la conversation autour des mesures qui sont proposées, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles peuvent être efficaces, celle qui va jouer l'entrée en matière, si je puis dire, c'est vous, Evelyne, et vous êtes à Bordeaux. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je voulais recentrer un peu le débat parce que moi j'habite Bordeaux Centre et nous avons deux points de deal à 5 minutes des quais de la Garonne. Donc c'est une zone pas touristique, donc ça s'implante beaucoup le trafic. Et la police passe tous les jours, pas de problème. Bon, les trafiquants s'égaillent dans la nature quand la police est là. Il se passe rien. On nous dit plus ou moins on observe ces points de deal et qu'on essaye de remonter les filières, mais rien ne se passe. Alors on peut se poser. Alors c'est pas seulement un phénomène périurbain le trafic de drogue. Ça s'implante aussi dans les centres-villes. Hein. Donc mon témoignage de Bordeaux.
Et on en.
C'est vrai que c'est très inquiétant pour les jeunes qui consomment.
On l'a entendu, votre témoignage, Evelyne, merci beaucoup. Amandine Demort, est-ce que vous reconnaissez dans Evelyne certains des habitants des Chirolles qui peut-être viennent vous voir en vous disant la même chose ?
Oui, nous on est une ville de périphérie, mais la ville-centre à côté est également touchée par la question du narcotrafic. Et ça a été rappelé tout à l'heure, ça touche autant les villes que les campagnes. Aujourd'hui, on parle de 80% des communes qui sont touchées. Donc oui, ça touche tout le monde. Et quand madame parle qu'on a peine à remonter les filières, on manque de moyens aujourd'hui. La justice manque de moyens pour faire son travail. Les policiers manquent de moyens pour mener leur travail d'enquête correctement. Et il faut aujourd'hui qu'on retravaille ces questions-là.
Alors qu'on essaye de les retravailler en ce moment, je vais d'abord vous poser la question à vous, Michel Gandilon, qui êtes, qui surplombait en fait ce problème-là, ce qu'on essaye de faire là. C'est taper au portefeuille, c'est le gel des avoirs, c'est faire des procédures d'injonction, notamment pour expliquer en gros les trains de vie et être capable d'aller au portefeuille encore une fois. Changer les infractions pour être plus vigilant sur le blanchiment. Est-ce que vous dites depuis votre point de vue, oui, c'est la porte d'entrée en fait, en tout cas pour les trafics?
Écoutez, il y a plusieurs portes d'entrée. Effectivement, il faut remonter les filières et tracer l'argent. Le problème en France depuis des décennies, puisqu'on a parlé de basculement, mais moi je dirais que le premier basculement est intervenu il y a 40 ans, quand les premiers points de deal relativement structurés ont commencé à s'implanter autour de l'héroïne et de la résine de cannabis dans les banlieues. Et on a laissé prospérer une situation aujourd'hui qu'on n'arrive plus vraiment à contrôler. Donc là, depuis quelques années, il y a une sorte de réveil sur les questions du crime organisé qui deviennent maintenant des sujets quotidiens dans la société française. On a eu, il y a en 2022, le rapport de la délégation parlementaire du Sénat qui parlait d'une menace en pleine expansion. Il y a eu le rapport du Sénat, donc transpartisan, comme vous l'avez dit, sur ces questions. Mais je pense qu'il faut remettre en cause, effectivement, une bonne partie de la politique qui a été suivie depuis 40 ans et qui est caractérisée, Madame le maire l'a dit très bien, par un manque de moyens un manque de moyens très très important en termes de magistrats, en termes de policiers.
Mais je vous entends, Michel Gandillon, et j'ai l'impression qu'on arrive comme les carabiniers, en fait, qu'on a cru que chez nous, ça allait pas se produire, que les grosses mafias, y compris les grosses mafias de narcotrafic, c'était pas pour nous, c'était plutôt les voisins, enfin, c'était les Mexicains ou c'était les Italiens. Est-ce qu'on n'a pas vu venir ? Est-ce qu'on s'est de toute façon planté dans notre lecture au démarrage ?
Mais je crois, je vous l'ai dit, il y a 40 ans, quand ça a commencé, on a laissé prospérer un phénomène qu'on a de plus en plus de mal à contrôler. Alors, les pouvoirs publics n'ont pas été inactifs et ne sont pas inactifs, puisqu'on n'a jamais saisi autant de drogue en France que ces dernières années. On saisit des quantités phénoménales de drogue, mais hélas, alors que ça devrait avoir un impact sur le marché en créant des situations de pénurie qui feraient augmenter les prix, diminuer les puretés, c'est tout le contraire à quoi on assiste. Et moi, en tant que qui regarde un peu l'architecture de la lutte antidrogue en France, le paradoxe, c'est que je dirais que nous avons un tas de beaux dispositifs sur le papier. En 2004, on a créé les juridictions interrégionales spécialisées chargées de lutter contre la criminalité organisée. On a créé la Junalco. On a des cours d'assises spéciales et un code pénal extrêmement sévère sur la question de la répression du trafic de stupéfiants en bande organisée. Mais tout ça ressemble, excusez-moi, à une sorte de village Potemkin, c'est-à-dire que derrière la façade, il manque des effectifs, il manque de moyens. Il y a eu une pétition l'année dernière dans Le Monde qui était très frappante de magistrats des GIRS, donc qui sont spécialisés sur la lutte contre le crime organisé, et qui parlaient de manque de moyens abyssaux.
Je vois que vous voulez réagir, Frédéric Lauze. Moi, il y a une chose qui me frappe dans ce que nous dit Michel Gandillon. Effectivement, on saisit énormément, et on le montre d'ailleurs à chaque fois, hein, on nous le montre, on voit des montagnes de cocaïne ou de cannabis qui sont saisies. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter, en fait, enfin arrêter, qu'il faut que ça n'a aucun sens, il faut qu'on s'occupe de l'échelon qui est juste avant, et l'échelon juste avant, c'est avant d'arriver, ou c'est l'argent qui a été utilisé, etc.
Il faut s'occuper de tous les échelons et vous avez raison de rappeler qu'il y a eu les saisies n'ont jamais été aussi importantes. Derrière les saisies, il y a des enquêtes judiciaires minutieuses réalisées par des policiers. On a un office anti-stupéfiant qui s'appelle l'OFAST, hein, qui est à sa tête un commissaire avec comme adjoint un magistrat, avec des douaniers, des gendarmes, qui fait un travail remarquable avec des antennes, des brigades de stup. Il faut travailler à tous les niveaux. Vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez, c'est essentiel, pour faire des enquêtes sur les stupéfiants ou des enquêtes patrimoniales sur notamment le blanchiment, entre autres, ou l'enrichissement sans cause, si vous voulez, etc. À un moment donné, si vous avez des frontières ouvertes aux quatre vents, bien évidemment, vous pouvez essayer de réguler l'air chez vous, mais si les portes et les frontières sont ouvertes, il y a un curseur. Libre circulation des personnes, des capitaux, libre circulation des marchandises. C'est les accords grand marché unique,
Schengen,
mais à un moment donné, on en tire des bénéfices. Ouais. Aujourd'hui, on en voit les mauvais aspects, et notamment le trafic de stupéfiants avec des enjeux de souveraineté extrêmement graves. Je voulais rappeler aussi quelque chose.
C'est vrai, pardonnez-moi, mais sur les frontières, notamment, tout n'est pas intra-européen, donc ça veut dire qu'il y a des frontières, il y a des frontières en France. Enfin, quand la marchandise vient du Maroc, par exemple, ou de pays de ce genre-là, ou même de beaucoup plus loin, et qu'elle passe par les Antilles pour arriver jusqu'à chez nous, là, des frontières, elles existent.
Alors, les frontières existent, nos outre-mer, parce qu'on a une grande façade maritime, la France avec des ports, et on a des outre-mer qui sont très touchés par le trafic de stupéfiants, je pense à la Guyane et aux Antilles, la Martinique et la Guadeloupe. En même temps, je pense qu'il faut avoir en tête deux choses. Si vous voulez, comme ce que disait notre auditrice, je crois que c'est Yveline à Bordeaux, tout de suite lutter contre un point de deal, notamment dans un immeuble ou dans un endroit public, les gens sont agacés, il y a un point de deal, ça pourrit leur vie, ça engendre une autre forme de criminalité, extorsion de fonds, rackets, menaces. Si vous voulez tout de suite éteindre cet incendie du point de deal, vous pouvez le faire, il faut des moyens, on va le faire en quelques jours, quelques semaines, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir remonter les filières. Et ces procédures-là demandent du temps. Il faut de la coopération policière, judiciaire internationale. Il faut beaucoup de temps. Il faut des techniques spéciales d'enquête. Si vous dites, voilà, je vais faire remonter les filières, ben pendant ce temps, les gens vont devenir fous en termes de qualité de vie, parce qu'ils vont dire, et c'est ce qui m'est souvent arrivé, comme commissaire, on venait me dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Mais en réalité, on avait une enquête au long cours. Je voulais juste finir en disant que la drogue, il faut la traiter au niveau d'un G20 et d'un G7. Il faut la mettre à l'ordre du jour d'un G20 ou d'un G7. Il faut la mettre à l'ordre du jour d'un Conseil européen. Ça se traite au niveau mondial, au niveau européen, au niveau franco-français, comme au niveau du consommateur. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout à la fois.
Alors la question, elle vient évidemment, et c'est vous qui allez la poser, Jean-Claude, mais vous êtes très, très nombreux autour de cela. Tiens, je vais citer notre ami Arnaud aussi, qui dit « Est-ce que la solution ne serait pas de laisser les citoyens faire pousser quelques plantes, éventuellement avoir l'obligation de les revendre à une coopérative d'État, comme ça se fait au Portugal, ça casserait le trafic, ce serait local et ça pourrait être facilement régulé ?» Vous êtes sur la même ligne, Jean-Claude, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bah effectivement, depuis 50 ans, j'entends parler toujours de répression, et les politiques n'ont rien fait, donc ce qui fait que la mafia s'est emparée de l'histoire. Une chose de clair, l'Allemagne a dépénalisé l'année dernière. Eh bien, au printemps de l'année dernière, si vous vouliez avoir des graines de cannabis, c'était compliqué parce qu'ils étaient en rupture de stock. En Allemagne, ils avaient acheté les graines pour en faire pousser chez eux. Si vous avez moins de consommateurs qui vont acheter à la mafia, déjà, c'est une bonne chose de gagner. Je rappelle que le cannabis, l'ivresse cannabitique, l'ivresse alcoolique, mon Dieu, c'est pas loin d'être un peu la même histoire. Hein. Donc, on a besoin d'ivresse dans notre monde.
Merci Jean-Claude, encore une fois, porte-parole de beaucoup de nos auditeurs. C'est pas à vous que je vais poser la question, Frédéric Loss, parce que vous y avez déjà quasiment répondu. Michel Gandilon, ça, on le voit venir à chaque fois. Il y a évidemment beaucoup d'auditeurs et beaucoup de gens qui disent la solution, c'est la dépénalisation. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Bah, la dépénalisation, c'est même dépassé. Maintenant, la solution qui est avancée, c'est la légalisation qui est au cœur de l'actualité, puisqu'il y a de plus en plus d'États à travers le monde qui légalisent le cannabis. Hein. On parle de légalisation du cannabis. Aux États-Unis, vous avez par exemple presque la moitié des États aujourd'hui qui ont légalisé le cannabis à des fins récréatives ou non médicales. Il y a l'Uruguay qui a commencé, il y a le Canada, il y a l'Allemagne. Mmh. Monsieur a dit l'Allemagne a dépénalisé. Non, l'Allemagne a légalisé le cannabis. Mmh. Ce qui est compliqué aujourd'hui par rapport à la légalisation, c'est qu'on commence à avoir du recul sur des États qui ont légalisé. Je pense par exemple au Colorado en 2012-2013. Et qu'on a aujourd'hui, parler de légalisation est insuffisant. On a des modèles de légalisation très différents à travers le monde. Et on peut en commencer à en tirer des bilans qui sont très très contrastés.
Mais est-ce qu'on peut dire oui ou non, le trafic s'est effondré ou pas ?
Alors ça dépend. Moi je suis plutôt spécialiste des États américains. J'ai commencé à faire des recherches sur le modèle de légalisation américain, et notamment au Colorado, et on voyait que, hélas, quelques années après la légalisation du cannabis au Colorado, qui est un modèle très libéral, hein, la production est confiée au secteur privé, il restait quand même quelques années après un marché illégal relativement important. Mmh. Parce que la légalisation pose aussi des problèmes, elle pose des dilemmes. À quel prix fixer le prix du cannabis ? Est-ce qu'on limite les taux de THC ? Si le prix est trop haut, on laisse une marge de manœuvre pour les trafiquants qui vont proposer sur le marché noir des produits qui sont par définition non taxés et beaucoup moins onéreux. Si on limite, comme en Uruguay, les taux de THC, ils vont proposer des produits
qui sont plus forts,
plus dosés, beaucoup plus forts en THC. Ou alors, aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est que les cartels mexicains se sont déplacés vers d'autres drogues, notamment vers l'héroïne, puis le fentanyl. Donc, je ne pense pas que la légalisation soit une solution miracle. Et puis, il y a les problèmes de santé publique que ça pose, parce qu'on a assisté, en fait, dans beaucoup d'États qui ont légalisé, à une très, très forte augmentation des consommations, que ce soit au Québec, que ce soit au Colorado, que ce soit en Uruguay.
J'ai envie de vous poser la question, Amandine Demort, vous, Madame la maire d'Échirolles, j'imagine que aussi vous avez des gens dans votre ville qui vous disent « mais c'est ça la solution ». Et quand on est élu comme vous, qu'est-ce qu'on répond ?
On répond que ça doit passer par un grand débat national. On répond qu'on doit mettre des spécialistes autour de la table. On doit dresser les bilans des pays, ça a été dit, qui sont partis dans la légalisation ou la dépénalisation. Il ne faut pas prendre des positions à l'emporte-pièce sur des sujets aussi importants, parce que ce qu'on voit, c'est des taux de THC aujourd'hui qui sont vendus dans le cannabis qui ont explosé. Donc, on sait qu'on n'ira pas là-dessus. Quid de la cocaïne ? Enfin, ça pose plein de questions. Voilà. Mais il faut se la poser et mettre les experts autour de la table là-dessus. Ça, c'est essentiel pour moi.
Et c'est compliqué hein, dans ce pays, parce qu'on a essayé sur le cannabis thérapeutique et c'est déjà difficile. Donc, sur le cannabis récréatif, encore plus. J'ai une question pour vous, Frédéric Lauze. Il y a eu une chute vertigineuse de la production d'opium. On sait pourquoi, par exemple, en Afghanistan, la production a drastiquement baissé. L'opium, ça veut dire l'héroïne. Et je me demandais si c'était l'une des raisons pour lesquelles on voyait arriver les cachets, les drogues de synthèse, etc., très massivement dans un pays comme le nôtre. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ou pas ?
Il y a peut-être une relation de cause à effet, surtout qu'il semblerait que le régime taliban est strictement interdit.
Il a tout arraché.
La culture du pavot,
il a arraché 80-90%.
Tout ça reste à vérifier. Après, sur ce qui a été dit sur les drogues, on est un des pays qui consomme le plus d'antalgiques, où on a énormément de consultations pour des dépressions. Il y a le coût en termes de santé. Et puis, il y a une question à se poser. Voilà, moi, ce n'est pas le cadeau que j'ai envie de faire à mes enfants. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas idéaliste, mais je préfère leur parler de sport, de culture, de voyage, de dépassement, de préserver leur corps. Aux États-Unis, par exemple, on a eu 2 millions de personnes qui sont mortes en 20 ans du fait d'overdose, de surdose. Donc la dépénalisation, pour ma part, je comprends qu'il y a un débat à poser, mais pour ma part, il y a un problème de sécurité et de santé publique. Et puis, il faut rappeler qu'aux Pays-Bas en particulier, où ça a été dépénalisé, les organisations criminelles ne sont pas résiduelles. C'est très important, ça demeure.
Sachant qu'aux Pays-Bas, on ne cultive pas, enfin c'est compliqué, on fait quand même venir. D'un moment où on fait venir, effectivement, le trafic se maintient. Juste un mot, Michel Gandillon, très rapidement, parce qu'il nous reste une poignée de secondes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui substitution avec les drogues de synthèse, avec les médicaments, avec tout ça, et qui vont finir, pardon, j'espère que vous entendez mes guillemets, par ringardiser, en fait, l'héroïne d'une part, peut-être même la cocaïne ?
C'est ce qu'on a vu aux États-Unis où il y a eu une vague d'héroïne qui est intervenue il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, les champs de pavots ont quasiment disparu au Mexique et ont été remplacés par des opioïdes de synthèse comme le fentanyl qui provoque la mort de dizaines de milliers d'Américains chaque année. Donc est-ce que oui, la perspective qu'on arrive à se passer aujourd'hui de substances dérivées de produits naturels comme la coca, il y a du cannabis de synthèse aussi, est une possibilité. Pour répondre à votre question sur l'Afghanistan, la production d'opium a diminué de 90%. Et la peur, effectivement, c'était que le fentanyl prenne la place de l'héroïne sur le marché français et européen. C'est une véritable inquiétude. Pour le moment, ce n'est pas le cas parce que l'Afghanistan avait accumulé des stocks d'héroïne considérables qui continuent de s'écouler. Et l'année dernière, les saisies d'héroïne ont été encore considérables en France. Donc, on est beaucoup plus protégé, en tout cas, que les États-Unis sur cette question, été victimes de la dérégulation de l'industrie pharmaceutique.
On croise les doigts, mais on en a d'autres, des soucis de cet ordre-là. Je vous remercie chaleureusement tous les trois. Vraiment, merci à tous pour vos nombreux appels.